Le concept dissident. Le concept dissident ou la déclinaison de l'essentiel, vie, nature, esprit, intelligence, éternité, univers, bienfaisance. Selon Philippe Lafon, un être officiellement et indéfiniment traité comme handicapé mental potentiellement dangereux, ingénieur arts et métiers, faiseur d'œuvres paysannes, zidant du parti dissident. Ne pas s'y tromper, derrière l'apparence farfelue de ce dit zidant se cache sûrement une solution fondamentale et pertinente pour la vie de l'homme. Le concept dissident, par Philippe Lafon, un héritage de l'éternité passée pour l'éternité à venir. Grand 1, préface. Le concept dissident est né à l'heure de la folie de la course à la surconsommation, la folie de la pollution, du réchauffement, la folie liée à l'opacité du fonctionnement de la société humaine, tant sur le plan d'une économie qui épuise que sur le plan d'une raison imposée autant qu'insensée. Pourtant, l'homme ne se caractérise-t-il pas par son intelligence, par sa capacité à adapter l'organisation de sa société à l'environnement dans lequel il vit? À l'heure où l'ensemble de la classe politique n'offre rien de plus qu'un positionnement dans une compétition aux perspectives désastreuses, je, Philippe Lafon, zidane du parti dissident, propose ma déclinaison philosophique, politique et quasi-religieuse de l'essentiel dissident, simple, lisible par tous, les fondements d'un modèle de société qui répondent aux défis que doit relever l'humanité. Après les avoir décrits et en avoir expliqué leur genèse, je me suis attaché à anticiper leurs avantages et difficultés au regard des problématiques évoquées par les principaux partis politiques. Grand 2, le parti dissident. Le parti dissident, parti politique et quasi-religieux, est né de la recherche de valeurs inébranlables, qui réunissent autant qu'elle s'impose à tous et en tout lieu. À travers son essence, il propose une synthèse du passé, une raison du présent et une perspective d'avenir. En sept mots, cet essentiel dissident constitue aussi un point commun, un point d'union au carrefour de toutes les religions, de toutes les idéologies politiques. Vie, nature, esprit, intelligence, éternité, univers, bienfaisance. Chacun y adhère, consciemment ou inconsciemment, à la fois de façon entièrement libre et, en fin de compte, par la force des choses. Grand 3, le concept dissident. Tout être incarne donc à sa façon l'essentiel dissident. Voici comment le zidane du parti dissident que je suis le décline. Voici le concept dissident. Il se synthétise en cinq piliers. L'autorité universelle, la monnaie universelle, la banque universelle, l'allocation universelle, l'occupation intelligente et bienfaisante, gratuite. Grand A, l'autorité universelle. Sa fonction n'est pas d'imposer sa volonté, mais d'identifier et de représenter ce qui s'impose, l'essentiel dissident. En conformité avec l'idée selon laquelle la vie, la nature, l'esprit, l'intelligence, l'éternité, l'univers et la bienfaisance constituent cet essentiel, l'autorité universelle est composée de sept personnes qui représentent chacune une de ces valeurs. Pour la vie, un défenseur de la vie tiré au sort et dont le renouvellement est confié au hasard. Pour la nature, un naturaliste physicien, reconnu par ses confrères, renouvelé naturellement. Pour l'esprit, un philosophe artiste, renouvelé dans l'esprit des philosophes artistes. Pour l'intelligence, un mathématicien, renouvelé à chaque défaut de logique. Pour l'univers, un astronome, renouvelé au rythme des avancées de l'homme dans l'univers. Pour l'éternité, le doyen des volontaires, renouvelé de fait, et enfin, pour la bienfaisance, un élu pour une période donnée, tous deux définis au suffrage universel, à l'échelle de l'espace habité. Grand B, une monnaie universelle, le produit naturel. La monnaie universelle, seule et unique monnaie, représente exclusivement le produit naturel, c'est-à-dire les biens que la nature met durablement ou essentiellement à la disposition de l'homme. Concrètement, l'autorité universelle inventorie les matières premières que la nature renouvelle ou met à la disposition de l'essentiel et leur affecte une valeur. Petit 1, remarque. Dans la nécessité d'instaurer un dialogue entre la nature, ici à l'exclusion de l'homme et l'homme, le produit naturel exclut nécessairement le produit de l'homme, son travail. Grand C, une banque universelle, la nature. La banque universelle personnifie la nature. Elle distribue le produit naturel monétisé, l'allocation universelle, et collecte la monnaie quand l'homme prélève sur la nature. Chaque personne y dispose d'un seul et unique compte. De la même façon qu'il n'y a qu'une nature, la banque universelle est la seule et unique banque. Grand D, l'allocation universelle. L'allocation universelle est la déclinaison financière de l'égalité du droit pour chaque être humain vivant de disposer de sa part de produits naturels. L'allocation universelle égale le produit naturel renouvelé, monétisé, divisé par le nombre d'êtres humains vivants. Grand E, l'occupation intelligente et bienfaisante, gratuite. Nous avons vu que dans la perspective d'instaurer un dialogue entre la nature et l'homme, le travail de celui-ci ne pouvait pas faire partie du produit naturel, ne pouvait pas être monétisé. Ainsi, de la même façon que les hommes et les femmes s'occupent de leur maison et de leur famille, ils s'occupent de la terre et de l'humanité. L'occupation intelligente et bienfaisante, gratuite, remplace le travail rémunéré. Pareillement, les transactions commerciales se font sans prise de bénéfice. L'homme ne tire pas d'autre avantage de son activité que la création d'un bien, à moins que ce ne soit l'accroissement du produit naturel renouvelé et donc de l'allocation universelle. Grand 4, le motif dit Zidane. Voici une tentative d'éclairage sur le chemin qui mène au concept dit Zidane. Grand A, la déclinaison de l'essentiel dit Zidane. L'homme a l'instinct de vie, celui de défendre sa raison, son intelligence, son esprit et sa conception du bien, celui de durer. Tout ça le pousse à faire des réserves, à accumuler, à agir, à bouger, à explorer, à conquérir. Mais la logique de la raison du plus fort n'atteint-elle pas ses limites quand les armes de tous sont capables de tout détruire? Alors, si chacun peut tout faire sauter, n'apparaît-il pas le besoin pour l'homme de s'entendre avec l'autre, de mettre en forme une organisation de société fondée sur une idée commune de l'essentiel, autrement dit sur la reconnaissance universelle de ce qui s'impose? Ainsi, l'homme ne doit-il pas, naturellement et avec l'intelligence qui le caractérise, imaginer un modèle de société intelligible qui préserve sa vie, satisfasse son esprit, dure une éternité et soit universel? Avec la monnaie universelle, la banque universelle et avec l'intelligence bienfaisante de son activité, l'homme perpétue la vie au sens large. Il offre un terrain d'entente, un moyen d'unir tout le monde dans le respect de l'identité, de l'unicité de chacun. Grand B, bien faire avec l'égalité. Qu'est-ce qui justifierait qu'un homme puisse jouir de plus de richesses naturelles qu'un autre? Si le produit naturel est limité, si chacun a le pouvoir de tout faire sauter, le partage égalitaire et intergénérationnel des ressources n'apparaît-il pas comme la solution vitale, naturelle, intelligente, universelle, éternelle et spirituellement conforme à une idée commune du bien faire? Mais qu'est-ce donc que l'égalité? Si la notion de mérite paraît subjective et sujette à discorde, voire à des guerres de valeurs, celle d'égalité financière de chacun, synonyme d'égalité d'accès vis-à-vis des ressources, ne paraît-elle pas intelligente et universelle, puisque compréhensible par tous? Grand C, la monnaie universelle, une solution nature, intelligence, éternité et univers. Évidemment, pour que l'égalité soit intelligible et incontestable, il faut un outil de mesure universel, une seule et unique monnaie, la monnaie universelle. Et pour que cette monnaie, dans sa masse, ait un sens, il faut qu'elle représente de façon intelligible et durable quelque chose. Or, ce qui conditionne l'existence de l'homme, c'est son cadre de vie, la terre. Et à force de puiser dans celle-ci, l'homme menace de s'épuiser lui-même. Il faut donc trouver un moyen de préserver la terre et l'homme. Il faut trouver un système qui ne permette pas à l'homme riche de prélever plus que le tolérable pour lui et sa descendance. Trivialement, la solution à cette problématique est de personnifier la nature, la terre. Ainsi, l'homme a une interlocutrice, la nature. Celle-ci lui dit stop quand il est trop gourmand, ou bien dit « je suis disponible, tu peux user de moi » si tel est le cas. Or, dans la société moderne, ce qui empêche l'homme, tout comme ce qui le pourvoit, c'est l'argent. L'argent doit être retiré quand l'homme épuise la nature, et celle-ci doit lui en donner quand elle peut donner d'elle. Tout est dit. Il n'y a plus qu'à une monnaie universelle, le produit naturel, géré par une banque universelle, la nature. Grande, et le travail de l'homme alors? Qui le paye? Qui l'encourage? Elle l'aime bien, elle l'approvisionne bien, mais elle n'a pas besoin de lui, la nature. Alors, à quoi bon payer son travail? D'ailleurs, lui demande-t-elle de travailler, elle qui l'a façonné et qui conditionne son existence? L'ancien débat sur les revenus du travail reposait sur des notions de mérite. Ça engendrait souvent des rétentions d'informations, des créations de besoins bien subjectifs, voire illusoires, pour générer un travail qui n'avait de sens que l'absurdité du produit créé. Avec les cinq piliers, fini de se battre pour un boulot débile, fini les lobbies financiers. On fainéante, on réserve son énergie à faire le bien, dans le souci d'économiser la nature, de veiller à l'autre, et de consacrer son temps à nourrir l'esprit avec un vrai sens de la vie. Grand E, implication, le prix d'un bien égale son empreinte écologique monétisée. Comme une implication triviale, le prix d'un bien ne dépend plus que des matières qui conditionnent son existence à un endroit donné. Le prix d'un bien égale le prix des matières premières qui contribuent à son existence, plus le coût de son transport, c'est-à-dire son empreinte écologique monétisée. L'homme qui achète se rend donc compte de ce qu'il fait à sa pourvoyeuse. Il se rend compte qu'il a intérêt à l'économiser et à faire durer les plaisirs qu'elle lui procure, quitte à réduire, réutiliser et ou recycler ce qu'il lui achète. Petit 1, cas des déchets. Les déchets, anciens synonymes de problèmes de pollution, gardent de la valeur. Trivialement, la nature les rachète, c'est-à-dire qu'elle réinjecte sous forme d'allocation universelle le prix des matières premières recyclées, de telle sorte que l'individu veille à réduire ses déchets et que l'humanité s'efforce de les recycler.